Exode 25, depuis le premier verset, et l'Éternel parla à Moïse, disant, parle aux fils d'Israël, et qu'ils prennent pour moi une offrande élevée. Vous prendrez mon offrande élevée de tout homme qui aura un esprit libéral. Et c'est ici l'offrande élevée que vous prendrez d'eux, de l'or et de l'argent et de l'airain, et du bleu et de la pourpre et de l'écarlate, et du coton blanc et du poil de chèvre, et des peaux de bélier teintes en rouge, et des peaux de tessan, et du bois de sittim, de l'huile pour le luminaire, des aromates pour l'huile de l'onction et pour l'encens, des drogues odoriférantes, des pierres d'onyx et des pierres enchâssées pour l'éphod et pour le pectoral. Et ils feront pour moi un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux, selon tout ce que je te montre, le modèle du tabernacle et le modèle de tous ses ustensiles, ainsi vous ferez. Et ils feront une arche de bois de sittim. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, et sa largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une coudée et demie. Et tu la plaqueras d'or pur, tu la plaqueras dedans et d'or, et tu y feras un couronnement d'or tout autour. Et tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux à l'un de ses côtés, et 2 anneaux à l'autre de ses côtés. Et tu feras des barres de bois de sittim, et tu les plaqueras d'or, et tu feras entrer les barres dans les anneaux aux côtés de l'arche, pour porter l'arche par elle. Les barres seront dans les anneaux de l'arche, on ne les en retirera point. Et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Et tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, et sa largeur d'une coudée et demie. Et tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux 2 bouts du propitiatoire. Fais 1 chérubin au bout de ça, et 1 chérubin au bout de là. Vous ferez les chérubins tirés du propitiatoire à ses 2 bouts. Et les chérubins étendront les ailes en haut, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et leurs faces seront l'une vis-à-vis de l'autre. Les faces des chérubins seront tournées vers le propitiatoire. Et tu mettras le propitiatoire sur l'arche, par-dessus, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Et je me rencontrerai là avec toi, et je parlerai avec toi de dessus le propitiatoire, d'entre les 2 chérubins, qui seront sur l'arche du témoignage, et te dirai tout ce que je te commanderai pour les fils d'Israël. C'est un passage très riche que nous avons lu. Il est bien de se rappeler du contexte. Dans Exode 15, nous voyons que Dieu les a rachetés de l'esclavage de l'Égypte. Et au premier verset, nous lisons « Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et parlèrent, disant, « Je chanterai à l'Éternel, car il s'est hautement élevé. Il a précipité dans la mer le cheval et celui qui le montait. J'ai et ma force et mon cantique, et il a été mon salut. Il est mon Dieu, et je lui préparerai une habitation. » Voilà, c'est ce point-là que j'aimerais souligner. Un peuple racheté qui donne une réponse. « Je lui préparerai une habitation. » C'est ça qu'on voit dans le tabernacle. Le tabernacle est une réponse du cœur d'un peuple racheté, mais en même temps, si cette réponse est donnée, il faut que ce soit selon les pensées de Dieu. Un peu comme Jean 4, Dieu cherche, le Père cherche des adorateurs, ceux qui l'adorent, l'adoreront en esprit et en vérité, selon les critères que Dieu a établis. Ce serait beau de réaliser aussi que c'est la proximité qui est soulignée. Exode 19, verset 4, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai amené à moi. Ainsi, un peuple dans la proximité de Dieu est instruit par rapport à ce sujet de l'adoration. Et comme nous savons du Nouveau Testament, ces choses ont été écrites pour notre instruction, pour notre encouragement. Donc brièvement, d'abord quelques points d'introduction. L'Éternel parla à Moïse. Nous voyons sept fois dans cette section où Dieu donne les instructions à Moïse, qu'il est dit, l'Éternel parla à Moïse. Il serait bon de voir encore la fin du chapitre 24, verset 15. Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne, et la gloire de l'Éternel demeura sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours, et le 7e jour, il appela Moïse du milieu de la nuée, et l'apparence de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des fils d'Israël. Et Moïse entra au milieu de la nuée et monta sur la montagne. Et Moïse fut sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Ainsi, Moïse est un exemple, une illustration du Seigneur Jésus qui est maintenant dans la gloire, monté au ciel. Et là, Dieu lui communique ses pensées. Et par son esprit, il communique ses pensées à nous aussi. Et un chapitre comme Exode 25 contient beaucoup d'instructions pour nous. Ce chapitre ne donne pas les principes de l'Assemblée, comme la doctrine du Nouveau Testament, mais ces illustrations nous aident à saisir les pensées de Dieu quant à son Fils bien-aimé et quant à un peuple pour lui-même. Lorsqu'on parle du tabernacle, c'est toujours bien de se rappeler que le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu dans ce monde, il est appelé la parole qui est devenue chair et qui habita au milieu de nous. Et ce verbe « habita » pouvait être traduit littéralement « il tabernacla au milieu de nous ». Donc, dans la personne du Seigneur Jésus, nous voyons vraiment la pensée de Dieu à l'égard du tabernacle. Le tabernacle est donc d'abord l'habitation de Dieu, en grâce, au milieu des siens. Ensuite, c'est le moyen par lequel la gloire de Dieu est révélée. Dieu révèle sa gloire en Christ. Et la première section des instructions du tabernacle, chapitres 25, 26 et 27, Dieu sort. Il montre dans tous ses détails sa gloire. Après l'introduction de la sacrificature, chapitre 28, 29, nous voyons que Dieu prend le racheté pour l'amener dans sa présence. Le tabernacle est aussi une figure des cieux. Nous voyons cela dans Hébreux 4, verset 14, où nous lisons que notre grand souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus, a traversé les cieux. Jésus, le Fils de Dieu. Et ainsi, le tabernacle nous parle donc de cette habitation de Dieu, mais montre aussi cette figure des cieux. Le parvis, la terre, où la croix a été placée. Ensuite, le lieu saint, c'est les cieux, les lieux célestes. Et le lieu très saint, où le trône de Dieu se trouve. Voilà, c'est là où l'arche était placée, comme on verra tantôt, dans le lieu très saint. Et ainsi, le tabernacle, dans son ensemble, est une figure des cieux. On pourrait aussi souligner le fait que ces choses sont l'image des choses qui sont dans les cieux. Donc, tout ce que Dieu avait montré à Moïse, il fallait qu'il le fasse selon le modèle que l'Éternel avait montré, car c'était l'image des choses qui sont dans les cieux. Il y a deux versets aussi dans Hébreux qui pourraient nous aider à comprendre cela. D'abord, Hébreux 9, verset 23. Hébreux 9, verset 23. Il était donc nécessaire que les images des choses qui sont dans les cieux fussent purifiées par de telles choses, mais que les choses célestes elles-mêmes le fussent par de meilleurs sacrifices que ceux-là. Ce chapitre nous parle du sacrifice de Christ qui était nécessaire pour purifier les choses dans les cieux. Ce sacrifice était donc d'un ordre plus élevé que le sacrifice donné une fois par année, Lévitique 16, par lequel les choses sur la terre étaient purifiées. Et dans Hébreux 8, verset 1, « Or la somme de ce que nous disons, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux, ministre des lieux saints et du vrai tabernacle que le Seigneur a dressé, non pas l'homme. » Donc on voit ici la pensée d'un tabernacle, que le ciel, les lieux saints, sont appelés le vrai tabernacle. Et c'est là où le Seigneur Jésus, glorifié maintenant, est le souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté. Il est ministre des lieux saints. Donc il s'occupe des intérêts de Dieu là dans la gloire. Et ainsi, le tabernacle, les chapitres qu'on a devant nous, Exode 25, 26, 27, sont des images qui reflètent les choses du ciel. Et ces détails nous aident donc à entrer dans les pensées de Dieu comme on les trouve en réalité maintenant par rapport à un Christ glorifié dans le ciel. Et ces choses ont donc une signification symbolique qui est très exacte et très importante. Notons au verset 2, parle aux fils d'Israël qu'ils prennent pour moi. Il s'agit donc des intérêts de Dieu, des choses qui sont pour lui-même, qui ont une valeur spéciale pour lui. Ensuite, cette expression, une offrande élevée. Une offrande peut dire quelque chose qu'il nous a donné d'abord, mais que nous pouvons lui offrir. C'est la pensée en général par rapport à l'offrande. On voit avec Caïn qu'il a produit quelque chose de lui-même, d'une terre maudite, et Dieu n'a pas pu accepter cela. Tandis que Abel a pris quelque chose que Dieu lui avait donné, du bétail, et il a consacré cela comme une offrande à Dieu. Et ainsi, nous pouvons prendre quelque chose de ce que Dieu nous a donné, et pour vraiment apprécier cela, nous devons payer un prix, nous devons nous occuper de ces choses, prendre du temps pour connaître les pensées de Dieu. Mais ce qu'on comprend des pensées de Dieu, nous pouvons lui offrir comme une offrande élevée. Cette expression souligne l'énergie spirituelle qui est nécessaire et aussi pour montrer cette chose comme quelque chose de très précieuse. Précieuse d'abord pour le cœur de Dieu, précieuse aussi pour nos cœurs. À la fin du verset 2, il dit « Vous prendrez mon offrande ». Donc ça souligne encore les droits de Dieu, un Dieu rédempteur. Le Dieu créateur a des droits, et comme rédempteur, il a des droits dans la rédemption. Et ainsi, nous pouvons lui offrir ce qui lui appartient. Vous prendrez mon offrande élevée mais ça vient de tout homme qui aura un esprit libéral. Dieu ne s'impose pas simplement, il atteint une réponse. Comme nous avons vu dans Exode 15, Dieu aime la personne qui donne volontairement. Et ainsi, un esprit libéral qui est le résultat de cette grâce de Dieu, un esprit libéral est précieux pour Dieu. Est-ce que nous avons aussi cet esprit libéral pour offrir à Dieu nos actions de grâce avec amour, avec une réponse de notre cœur? Verset 3, c'est ici l'offrande élevée que vous prendrez d'eux. Maintenant, on a quatre catégories qui sont données de cette offrande élevée, qui était donc nécessaire pour le service du tabernacle, et qui viennent d'un esprit libéral. Et cette quatre catégories commence d'abord par les choses qui nous parlent de Dieu, de ce que Dieu est en lui-même, notamment l'or, l'argent et l'airain. L'or nous parle de la gloire de Dieu, l'argent nous parle de la rédemption, et l'airain nous parle de la capacité à subir le jugement. Le Seigneur était testé par la sainteté et par la justice de Dieu, et il était capable de subir tout cela. L'airain nous parle de cette capacité-là, comme on voit aussi dans ses pieds, dans Apocalypse 1, les pieds d'airain. Ces trois choses, ces trois métaux, nous parlent donc des aspects par rapport à Dieu. Dieu, qu'il est en lui-même, Dieu le Rédempteur, Dieu qui maintient ses droits. Ensuite, nous avons huit choses par rapport aux étoffes et par rapport au bois qui est mentionné à la fin. Et ces huit choses nous parlent du Seigneur Jésus, de son humanité. Le nombre 8 dans la parole de Dieu représente un nouvel ordre de choses. Et c'est remarquable que le nom du Seigneur Jésus, Jésus, a une valeur numérique de 888, 3 fois 8. Donc, même dans son nom, il représente ce nouvel ordre de choses, sans péché. Et dans ces 8 choses, nous voyons des aspects différents de la perfection du Seigneur Jésus dans son humanité. Une perfection qu'il a maintenant aussi dans la gloire. Parce qu'il faut se rappeler que les choses du tabernacle nous parlent d'un système selon le cœur de Dieu qui est lié au ciel. On a vu cela dans Hébreux et on voit cela même par le fait que Moïse était sur la montagne. Maintenant, ces huit choses, brièvement. D'abord, le bleu, qui nous parle de l'homme céleste, l'homme qui est venu du ciel. La pourpre nous parle du Seigneur Jésus dans ses droits, comme le roi des rois, tandis que l'écarlate nous parle de la gloire du Seigneur Jésus par rapport à ses souffrances. L'écarlate, le vert qui passe à travers les souffrances, psaume 22, et le coton blanc souligne sa perfection morale dans son humanité, sa pureté. Le poil de chèvre souligne la séparation, était l'homme séparé. Ça nous parle aussi du fait qu'il était le prophète de Dieu. Les peaux de bélier teintes en rouge. Bélier, dans la parole, nous parle de la consécration, du dévouement. et teintes en rouge, veut dire jusqu'à la mort, comme le Seigneur Jésus a montré sa consécration, son dévouement à Dieu jusqu'à la mort. Un peu comme le bélier dans Genèse 22, qui était attaché avec ses cornes dans le petit bois où Abraham l'a pris, le dévouement. Et les peaux de tessin, c'était pour couvrir le tabernacle, comme on voit plus tard. Ça nous parle de la capacité qu'on voit dans le Seigneur Jésus de garder les choses pour Dieu dans une parfaite séparation, dans une vigilance parfaite. Et maintenant, la huitième chose, le bois de Sittim. Dans la version grecque de l'Ancien Testament, c'est appelé le bois incorruptible. Ça souligne donc cette nouvelle nature qu'on voit dans le Seigneur Jésus. Il était sans péché, à part le péché, il ne pouvait pécher, il n'a pas connu le péché. L'huile pour luminaire, là nous voyons un aspect par rapport à l'esprit. D'abord, il faut se rappeler que le Seigneur Jésus était conçu par l'esprit, il était dirigé par l'esprit dans sa vie et surtout dans son ministère public, et pour cela il était aussi loin de l'esprit. Voilà ce que nous présente l'huile pour le luminaire. Et on peut penser aussi à l'Esprit Saint maintenant pour nous. Est-ce que nous sommes sous le contrôle du Saint-Esprit, comme on voit dans la vie du Seigneur Jésus? Et les autres éléments par rapport au ministère de l'Esprit, les aromates ou l'huile de l'onction, comme on voit par exemple dans l'option 45, et pour l'encens des drogues odoriférantes, l'encens qui est quelque chose qui est offert à Dieu dans l'adoration et aussi dans la supplication, et les pierres d'onyx nous parle encore de la perfection du Seigneur Jésus et comment il était sous le contrôle de l'Esprit dans tous les détails de sa vie. La pierre d'onyx, on trouve dans Genèse 2 pour la première fois dans la Bible, et il y a aussi une référence aux pierres à enchâsser pour l'éphod, où nous pouvons souligner le service que le Seigneur Jésus a maintenant comme souverain sacrificateur. Ces pierres étaient pour le pectoral. Donc, ces pierres nous parlent encore de Christ, ses gloires différentes, mais vues maintenant par rapport au peuple, parce que les pierres étaient portées sur les épaules du souverain sacrificateur et aussi sur son cœur, dans le pectoral. Donc, tous ces éléments étaient des pierres de base, des matériaux qui étaient nécessaires pour la construction du tabernacle. Et tous ces éléments sont utilisés dans les chapitres suivants. C'est beau de voir le but de tout cela, verset 8, « Ils feront pour moi, donc encore une fois, pour moi, les droits de Dieu, un sanctuaire, donc c'est pour souligner une place d'habitation, et j'habiterai au milieu d'eux, au milieu d'eux. » Donc Dieu veut avoir une place au milieu de son peuple. Pour nous, dans le Nouveau Testament, il est vrai aussi que Dieu habite en nous, l'Esprit de Dieu habite en nous, mais on peut penser aussi à Matthieu 18, verset 20, où le Seigneur vient au milieu des deux ou trois. Et la pensée que Dieu habitera au milieu de son peuple continue dans l'Apocalypse aussi, et même dans le monde à venir, et quant à l'Église, pour toute l'éternité. L'Esprit de Dieu sera avec nous pour toute l'éternité. Dans le verset 9, nous voyons Dieu comme le grand architecte, selon tout ce que je te montre le modèle du tabernacle et le modèle de tous ses ustensiles, ainsi vous ferez. Dieu a fait les plans, Dieu a présenté les plans à Moïse, maintenant ils peuvent faire ces choses selon les pensées de Dieu. Qu'est-ce que la première chose que Dieu mentionne? C'est quelque chose qui est très précieuse pour son cœur. C'est l'arche de bois de Sittim, verset 10. C'est la première chose qu'il mentionne. Et ainsi, on peut comprendre, Dieu nous parle de ce tabernacle et tous les détails, plus ou moins, nous parle du Seigneur Jésus, d'une façon ou d'une autre. Dieu prend la chose la plus importante, la plus précieuse pour son cœur, et c'est l'arche. L'arche de Dieu. Et j'aimerais mentionner quelques expressions que nous trouvons dans la Bible quant à l'arche, et puis ces passages nous aident à comprendre l'importance de l'arche. L'arche est comparée avec le trône de Dieu. Et ainsi, il est dit dans le psaume 80 que Dieu habite au milieu des chérubins. L'arche est vraiment le trône de Dieu. On voit cette même pensée dans Ézéchiel 10, où nous voyons Dieu sur ce trône, qui est aussi comparé avec un char. Et ainsi, l'arche fonctionne dans ces deux sens, comme trône, où Dieu habite, où Dieu est assis, mais aussi comme un char. Psaume 45 aussi, où nous voyons Dieu en mouvement. Il y a plusieurs expressions qui sont utilisées par rapport à l'arche. D'abord, l'arche de l'Éternel, aussi l'arche de l'Alliance, ou l'arche de l'Alliance de l'Éternel. C'est par rapport à l'Alliance que Dieu a établie avec son peuple, et c'est vraiment par la nouvelle Alliance que les pensées de Dieu seront accomplies quant à Israël. L'arche est appelée aussi l'arche de Dieu, dans 1 Chronique 13, verset 6. Appelée aussi souvent l'arche du témoignage, parce que dans l'arche, les deux tables de la loi ou du témoignage étaient mises. Donc, il y a plusieurs noms pour l'arche. Et un chapitre qui nous aide, c'est Josué 3, juste avant qu'Israël entre le pays promis. Nous lisons dans Josué 3, verset 11, « Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. » Donc, on voit ici que l'arche représente Dieu dans tous ses droits, mais aussi dans son engagement envers Israël, l'alliance du Seigneur. Donc, il a vraiment tous les droits sur toute la terre. C'est l'arche du témoignage aussi, l'arche de l'Alliance, l'arche de l'Éternel, l'arche de Dieu, appelée aussi l'arche de ta force, dans le psaume 132, et l'arche sainte, dans 2 Chroniques 35, 3, qui souligne que tout va ensemble avec la sainteté de Dieu. On voit dans Isaïe 6, par exemple. L'arche n'est pas mentionnée, mais là, nous voyons le trône élevé où Dieu est assis. Les mesures sont données, et ces mesures sont très petites. Sa longueur sera de 2,5 coudées, et sa largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une coudée et demie. Pourquoi les demi dans les trois dimensions? Est-ce que ce n'est pas pour indiquer que nous ne pouvons pas vraiment sonder toute la grandeur de la personne du Seigneur Jésus? Parce que dans l'arche, il est présenté de deux façons. Il est présenté comme Dieu, l'or pur, du verset 11, « Tu la plaqueras d'or pur, et tu la plaqueras dedans et d'or. » Donc, si on voit le Seigneur Jésus du dehors, ou dans son être intérieur, on voit Dieu. Et on se rappelle, l'arche était faite du bois de Sittim, qui souligne son humanité l'incorruptibilité de cette nature sans péché. Et ainsi l'arche est vraiment le centre du tabernacle, comme on comprend déjà par le fait que l'arche est comparée avec le trône. Lorsque dans les jours de Samuel, Élie, l'arche était prise par les Philistins, nous voyons que c'était vraiment le centre de tout le service. Sans l'arche, tout ce service n'a pas vraiment de valeur. Il y a aussi un couronnement d'or tout autour. Ce couronnement souligne maintenant que le Seigneur Jésus est couronné de gloire et d'honneur. Il est l'arche dans la gloire. Il est un homme que Dieu bénit sur toutes choses, mais il est couronné de gloire et d'honneur. Hébreux 2, verset 9. Encore quelques pensées sur le bois. Le bois souligne l'humanité du Seigneur Jésus, comme nous avons vu, et on peut penser à Isaïe 53, les premiers versets, où il est appelé le rejeton, la racine sortant d'une terre aride. Et dans Luc 2, nous voyons le Seigneur Jésus dans son abaissement, et en même temps, il était ce fruit précieux pour Dieu. On peut penser au psaume 16, où nous le voyons dans son humanité, mais sans corruption. Il n'a pas connu la corruption. Même dans la mort, il n'a pas connu la corruption. Et c'est ainsi que Dieu l'a élevé, et il est maintenant dans la gloire, assis sur le trône de Dieu. Le couronnement, nous avons mentionné déjà, nous parle de l'honneur que Dieu lui a donné. Et on peut penser maintenant à ce que l'arche contenait, c'est le témoignage, les deux tables du témoignage. Mais il ne faut pas oublier le fait que l'arche était pour être portée. Et l'arche devait aller en avant, comme on voit dans Nombre 10, où le peuple a commencé son voyage à travers le désert avec le tabernacle. L'arche est allée en avant. Donc l'arche nous parle du Seigneur Jésus comme le grand conducteur. Mais ce que l'arche contenait, c'est les deux tables de la loi. Et on pense au psaume 40, où le Seigneur dit, « C'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir, et ta loi est au-dedans de mes entrailles. » Quelle perfection dans le Seigneur Jésus. L'arche contenait aussi, on voit plus tard, d'un nombre, la verge d'Aaron qui avait bourgeonné, où nous voyons la pensée de la résurrection. Mais d'abord, dans Exode 16, nous avons une instruction quant à cette cruche d'or contenant un homer de manne qui nous parle encore du Seigneur Jésus dans son humanité, comment il était toujours dépendant de Dieu, toujours obéissant. Et il était le pain de Dieu. Quelle perfection nous voyons en lui, comme la manne. Et cette manne était gardée dans une cruche d'or, encore la perfection d'une personne divine. Et c'était gardé dans l'arche. Au verset 13, tu feras des barres de bois de sittim, et tu les plaqueras d'or. Et tu feras entrer les barres dans les anneaux aux côtés de l'arche pour porter l'arche par elle. Les barres seront dans les anneaux de l'arche, on ne les en retirera point. Les barres étaient donc pour transporter l'arche. Et comme nous avons vu déjà dans Nombre 10, l'arche allait donner la direction pour tout le peuple. Et c'est par rapport à notre marche à travers ce désert. Lorsqu'on voit l'arche dans le pays, dans le temple de Salomon, là les barres étaient ôtées. Parce que lorsque nous voyons le Seigneur Jésus dans la gloire, la pensée de voyager n'est plus là. Lorsque nous serons avec lui dans la gloire, on n'aura plus besoin de ces barres. Aussi longtemps que nous sommes dans le désert, c'est notre privilège comme des sacrificateurs de pouvoir porter l'arche en témoignage. C'est vraiment une pensée touchante, comme on voit plus loin dans le livre de Moïse, que les sacrificateurs étaient là pour porter l'arche. Et ainsi, nous, comme croyants, nous avons le privilège de pouvoir porter l'arche sur nos épaules, pouvoir montrer la beauté du Seigneur Jésus comme un témoignage dans ce monde. En même temps, il est vrai que l'arche contenait ces deux tables, les deux tables de la loi, mais on peut penser là aussi au peuple de Dieu dans son ensemble. Les deux tables représentent d'un côté, donc, comme j'ai dit, le Seigneur Jésus dans sa perfection, qu'il a accompli le bon plaisir de Dieu. Mais maintenant, lorsqu'il est dans la gloire, il est vrai aussi que nous, le peuple de Dieu, nous sommes représentés par ces deux tables. Et c'est l'arche qui nous porte, pour ainsi dire. C'est une pensée qui est développée dans Deutéronome 10. Verset 17, tu feras un propitiatoire d'or pur. Le propitiatoire était un élément très important. Et là, tout était d'or pur. Le propitiatoire était pour couvrir. On pourrait traduire, était le couvercle. Le couvercle pour couvrir l'arche. Si le couvercle était ôté, il n'y avait plus de protection du peuple. Et toutes les exigences de Dieu, comme exprimées dans la loi, les deux tables de la loi, seraient tout de suite maintenues en jugement. On voit cela dans Exode 32, lorsque Moïse est descendu avec les deux tables de la loi, et le peuple était tombé dans l'idolâtrie. On lit que Moïse a brisé ces deux tables tout de suite. Autrement, Dieu aurait dû détruire ce peuple vivant dans la débauche. Donc, c'est une pensée très solennelle. Pour l'arche, il fallait une protection afin que ces deux tables soient préservées, intactes, selon les pensées de Dieu, comme c'était le cas avec le Seigneur Jésus. Mais par la pensée de la propitiation, nous avons aussi l'aspect propitiatoire du Seigneur Jésus. Le mot couvercle implique aussi la pensée de couvrir, et c'est un mot qui est utilisé souvent par rapport au sacrifice pour le péché. Et ainsi, dans l'Ancien Testament, on voit que le sang a couvert les péchés. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que le sang de Christ a ôté le péché. Dans Jean 1, verset 29, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est la puissance efficace du sang de Christ. Mais la pensée de la propitiation est donc là déjà dans le mot propitiatoire. Si les deux tables de la loi nous parlent de Christ dans sa vie, dans son obéissance, dans sa perfection, soumis à la volonté de Dieu, nous pouvons suggérer que le couvercle, le propitiatoire, nous parle de Christ dans sa mort. Et là aussi, il a accompli toute la volonté de Dieu. Et ces deux pensées vont ensemble. Une vie de perfection pour faire la volonté de Dieu, comme il le dit si souvent dans Jean, qu'il était venu pour. Sa viande était pour faire la volonté de celui qui l'avait envoyé et d'accomplir son œuvre. Ainsi, sa mort était l'expression parfaite de la volonté de Dieu. Et ainsi, il a établi la base de tout. Maintenant, le propitiatoire est intimement lié au chérubin d'or. Le chérubin était toujours là pour maintenir les droits de Dieu. Et dans la mort du Seigneur Jésus, les droits de Dieu étaient maintenus d'une façon merveilleuse et excellente. Dans Hébreux 9, verset 5, nous lisons que le propitiatoire était ombragé par les chérubins de gloire. Hébreux 9, verset 5. Ainsi, les chérubins représentent la justice et le jugement qui sont les bases du trône de Dieu. Ils protègent de leurs ailes le propitiatoire et contemplent ce qui est placé dessus, le sang des sacrifices pour le péché. Ainsi, le propitiatoire est aussi un type de Christ, comme l'apôtre Paul l'exprime dans Romains 3, étant justifié gratuitement par la grâce de Dieu, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, lequel Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang. Là, nous voyons donc vraiment la pensée de Dieu quant au propitiatoire. Romains 3, versets 24 et 25. Et ce passage fait allusion aux cérémonies du jour des propitiations où le souverain sacrificateur, sous la nuée de l'encens, entrait au-dedans du voile avec le sang des sacrifices pour le péché afin d'en faire aspersion devant et sur le propitiatoire. Devant le propitiatoire, cette fois, en témoignage pour nous, et une fois sur le propitiatoire, une fois était suffisant pour Dieu. Cela nous montre l'importance et la valeur du sang de Christ pour Dieu et pour nous. Et c'est par ce sang que nous avons maintenant un libre accès dans la présence de Dieu. Hébreux 9 et 10. Quant aux chérubins, j'aimerais encore donner quelques références. Et nous voyons que ces chérubins sont toujours là pour maintenir les droits de Dieu, la justice de Dieu, la sainteté de Dieu. Dans Genèse 3, après la chute de l'homme, nous voyons que Dieu a envoyé les deux chérubins avec une épée pour garder l'entrée vers l'arbre de connaissance du bien et du mal. Ainsi, l'entrée du jardin d'Éden était bloquée par les chérubins, qui maintenaient les gloires de Dieu et la justice de Dieu. Plus tard, nous parlerons aussi des deux chérubins où Moïse était dans la présence de Dieu. Je vais garder ça pour quelques moments encore. Et on retrouve cette pensée dans Nombre 7, verset 89. Mais je vais maintenant donner quelques références qui nous parlent des chérubins. Dans Genèse 3, verset 24, nous lisons « Il chassa l'homme et plaça à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la lame de l'épée qui tournait çà et là pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Plus loin, dans Nombre 7, verset 89, quand Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec lui, il entendait la voix qui lui parlait du dessous le propitiatoire qui était sur l'arche du témoignage, d'entre les deux chérubins, et il lui parlait. Une communication entre l'Éternel et Moïse. 1 Samuel 4, verset 4, le peuple envoya à Silo, et on apporta de là l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Là, nous voyons que l'Éternel des armées siège entre les chérubins. Maintenant, j'aimerais encore mentionner cette référence par rapport au temple de Salomon, où nous voyons encore l'importance des chérubins. On a déjà fait référence au psaume 80, où nous voyons Dieu qui habite au milieu des chérubins. On peut penser aussi au psaume 99, verset 1. Mais dans le temple de Salomon, nous voyons les chérubins de cette façon. D'abord sur l'arche, comme dans Exode 25, les deux chérubins. Ensuite, les chérubins étaient aussi impliqués dans la construction des murailles et même aussi dans les portes, troisième point. Il y avait deux statues de chérubins dans le lieu très saint, faites de bois d'olive et couvert d'or pur. C'est le quatrième point. Ensuite, on voit les chérubins dans le voile qui a séparé le lieu saint du lieu très saint. Et nous voyons aussi les chérubins dans la couverture qui était placée sur le tabernacle pour protéger tous ces trésors. Là encore, des chérubins. Et dans Ézéchiel 10, nous voyons comment les chérubins sont là aussi en réalité pour porter le trône de Dieu. Donc il y a cette référence encore par rapport aux chérubins. Lorsqu'on pense au trône de Dieu dans Apocalypse 4, nous voyons les êtres vivants, les quatre êtres vivants. Et là, nous voyons les caractéristiques des chérubins, mais aussi les caractéristiques des séraphins, comme on voit dans Isaïe 6, qui souligne la sainteté d'un Dieu trois fois saint. Saint, saint, saint. Vous pensez à la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le fait qu'ils sont quatre êtres vivants me fait penser aussi aux quatre coins du tabernacle, les quatre coins de l'arche. Le nombre 4 dans la parole souligne l'aspect universel. Et ainsi, les vérités exprimées dans l'arche ont une valeur universelle. La grandeur de la personne de Christ, représentée par l'arche, est trouvée par exemple dans Colossiens 1. J'ai déjà mentionné Jean 1 tantôt, la parole devenue chair. Dans Colossiens 1, verset 19, nous lisons « Car en lui, toute la plénitude s'est plu à habiter, et par lui à réconcilier toutes choses avec elle-même. » Donc là, nous voyons la perfection de Christ comme l'arche de Dieu et toute la plénitude, la divinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, s'est plu à habiter en lui. Mais aussi par lui à réconcilier toutes choses avec elle-même. Là, nous voyons cette œuvre de la propitiation que le Seigneur Jésus accomplit. Là, nous voyons cet aspect que nous avons vu dans le propitiatoire. Et ainsi, la vie du Seigneur Jésus va ensemble avec sa mort et cette œuvre expiatoire. Dans Colossiens 2, verset 9, nous voyons Christ dans la gloire. Il est dit, car en lui habite toute la plénitude de la déité corporellement. Il est donc maintenant en la gloire, dans la gloire. Il est encore l'arche parfaite de Dieu. Et Dieu se manifeste par lui, parce que Dieu habite en lui. Et si Dieu se manifeste, c'est toujours par la personne du Seigneur Jésus. Et quant aux croyants, il est dit dans Colossiens 2, verset 10, « Vous êtes accomplis en lui, qui est le chef de toute principauté et autorité. » Donc, quelle position merveilleuse nous avons maintenant en Christ. Pour finir, j'aimerais revenir au verset que nous avons lu vers la fin, dans Exode 25, verset 20, « Les chérubins étendront les ailes en haut, couvrant de leurs ailes le propitiatoire. » Couvrant de leurs ailes le propitiatoire. Ainsi, nous avons cette pensée des deux chérubins qui ont couvert le propitiatoire. Et ça me fait penser à une expression qu'on trouve dans Luc 9, où la nuée est venue pour couvrir le Seigneur Jésus. Dans Luc 9, nous lisons cela, parce que le Seigneur Jésus était sur la montagne de la Transfiguration, et après qu'il avait prié, l'apparence de son visage devint tout autre. Et voici deux hommes qui étaient Moïse et Élie parlaient avec lui, lesquels, apparaissant en gloire, parlaient de sa mort qu'il allait accomplir à Jérusalem. Et Pierre dit au verset 33, « Maître, il est bon que nous soyons ici, faisons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie, ne sachant ce qu'il disait. » Verset 34. Et comme il disait ces choses, une nuée vint et les couvrit. Là, nous voyons Christ couvert par cette nuée, mais aussi les disciples qui étaient avec lui. C'est une pensée par rapport aux chérubins. Les chérubins sont intimement identifiés avec la gloire de Dieu. Et cette nuée qui a couvert le Seigneur Jésus et les disciples nous parle de la gloire de Dieu, comme dans le Shekinah. Le mot Shekinah vient d'un mot qui est très proche au mot tabernacle, dans l'original, dans l'hébreu. Et ainsi, il y a un lien intime entre le tabernacle, Mishkan, et la nuée, Shekinah. Et cette Shekinah a couvert le Seigneur Jésus. Et la pensée du Shekinah est trouvée aussi dans 2 Corinthiens 12, dans la vie de Paul, l'apôtre, où nous lisons verset 9, après qu'il avait supplié trois fois le Seigneur, afin que cet ange de Satan se retire de moi, il dit au verset 9, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. Je me glorifierai donc, dit l'apôtre, très volontiers, plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance du Christ demeure sur moi. Ce mot « demeure » est le même verbe dans Luc 9. Et ainsi, on peut traduire « afin que la puissance du Christ tabernacle sur moi ». Donc là, dans la faiblesse de Paul, la pensée de la gloire de Shekinah, par l'expression « la puissance du Christ » serait sur lui, pour l'ombrager, pour le protéger. Nous trouvons aussi la nuée dans l'ascension du Seigneur Jésus, lorsqu'il a été ôté de cette terre, dans Acte 1. Les disciples l'ont vu partir dans cette nuée. Par la grâce de Dieu, nous avons maintenant une idée de cette gloire, parce que nous avons, par le ministère de Paul, une impression de cette gloire du Seigneur Jésus dans le ciel. Nous pouvons ainsi voir dans la nuée, pour ainsi dire, ou l'autre côté de la nuée. Et cette nuée, qui nous parle donc de la présence de Dieu, est aussi avec nous, parce que l'Esprit Saint habite en nous maintenant. La Shekhinah qui a couvert le tabernacle nous parle de l'Esprit Saint qui représente un Christ glorifié et qui remplit maintenant la maison de Dieu, où il n'y a pas de place pour quoi que ce soit autre que la personne de Christ. Ainsi, dans la vie de Paul, il a appris qu'il n'y avait pas de place pour quoi que ce soit à côté du Seigneur Jésus. Et dans sa propre faiblesse, il a réalisé cela, et la puissance de Christ a demeuré sur lui. Dans le monde à venir, nous verrons cette gloire publiquement. Cette gloire va revenir au temple qui sera reconstruit. Ce n'est pas le temple de l'Antichrist, parce que ce temple sera détruit, Daniel 9, 27, et 2 Thessaloniciens 2, mais ce sera un nouveau temple, selon les instructions d'Ézéchiel 40 à 48, et là, cette gloire va revenir d'une façon publique. Et j'aimerais lier cela à ce qu'on a lu dans Exode 25 par rapport aux chérubins. On a vu déjà que les chérubins ont couvert avec leurs ailes le propitiatoire, donc la gloire de Dieu et l'œuvre de la propitiation vont ensemble, parce que toutes les exigences de Dieu ont été satisfaites par l'œuvre expiatoire de Christ. Mais le point que je souligne maintenant, au milieu du verset 20, leurs faces, donc les faces des chérubins, seront l'une vis-à-vis de l'autre, les faces des chérubins seront tournées vers le propitiatoire. Donc, en voyant le propitiatoire, ils voient le sang qui était mis sur le propitiatoire, et ils doivent constater que toutes les exigences de la sainteté de Dieu, de la justice de Dieu, ont été satisfaites par le sang du sacrifice pour le péché. Et Hébreux 13 nous explique cela en détail, aussi Hébreux 9 et 10, où on voit que le sang des animaux qui étaient brûlés en dehors du camp, le sacrifice du péché, pour le péché, leur sang était appliqué dans le lieu très saint, sur le propitiatoire. Ainsi, la valeur de Christ est reconnue par Dieu et l'accès devant Dieu, devant le trône de Dieu, est ouvert maintenant. Et les chérubins voient cela et sont satisfaits. Il est remarquable que dans 2 Chroniques 3, verset 13, les chérubins voient avec leur face vers la maison. Si les chérubins voient maintenant autour d'eux, ce serait la destruction. Dieu voit toute cette injustice dans ce monde et le jugement est sur ce monde. Mais Dieu attend, c'est sa patience, 2 Pierre 3. Les chérubins sont encore concentrés sur le propitiatoire. Ils ne voient rien d'autre. Mais dans le millénium, leurs faces seront vers la maison. Là, ils seront capables de voir tout ce qui se passe en dehors. Et on voit dans le millénium que la justice règnera. La justice est satisfaite maintenant par rapport à l'œuvre de Christ. Et nous lisons dans Romains que la grâce règne en justice. Mais dans le millénium, c'est la justice qui va régner. Et ainsi, les faces des chérubins peuvent voir autour d'eux. Quant à l'état éternel, nous avons encore une autre expression dans 2 Pierre 3. Là, nous voyons que la justice va habiter. Tout sera en accord avec Dieu. Et là, il n'y a plus de besoin d'enforcer des choses par le règne de la justice, comme dans le millénium, mais tout sera en accord avec Dieu. Dieu sera tout et en tous. Et les chérubins seront encore satisfaits, et entièrement satisfaits. Ensuite, j'avais encore une pensée sur les versets vers la fin du passage que nous avons lu, au verset 22, « Je me rencontrerai là avec toi. » Donc Moïse avait ce privilège de pouvoir rencontrer Dieu devant le propitiatoire. Et ainsi, Moïse avait un accès direct à Dieu. Moïse représente ici les croyants d'aujourd'hui. Les Israélites n'avaient pas ce droit. Ils étaient toujours dehors. Et même les sacrificateurs ne pouvaient pas venir dans la présence immédiate de Dieu. Sauf le souverain sacrificateur, selon Lévitique 16, même là, seulement une fois par année, avec l'encens, avec le sang du sacrifice, il pouvait entrer. Mais Moïse avait ce privilège toujours, comme nous aussi aujourd'hui. Selon Hébreux 10, par exemple, nous pouvons nous approcher de Dieu avec une conscience libre. Nous avons cette liberté, cette confiance, comme on voit aussi dans 1 Jean. Et là, nous avons cette communion avec Dieu. Pour avoir une rencontre avec Dieu, il faut que ce soit sur la base de l'œuvre accomplie de Christ. Sans cette œuvre, il n'y a pas de point de rencontre. Mais cette communion est soulignée par ces paroles, « Et je parlerai avec toi ». C'est une communion intime et personnelle. Et il est dit de dessus le propitiatoire. Donc, le vrai caractère de Dieu a été révélé en grâce par rapport au propitiatoire. Et c'est la base sur laquelle Dieu s'adresse maintenant à Moïse et au Nouveau Testament, à nous aussi. Donc, malgré les limitations de l'Ancien Testament, nous voyons en Moïse quand même une illustration de ce que nous avons aujourd'hui comme croyants. Il est dit que Dieu parlerait avec lui d'entre les deux chérubins. Dieu est identifié avec les deux chérubins, comme on voit souvent dans la Bible, surtout dans Ézéchiel. Ézéchiel était un sacrificateur, et il avait un attrait intense aux choses de Dieu, à la sainteté de Dieu. Il décrit cela en détail dans Ézéchiel. Et aussi, cette gloire qui devait partir de la ville, une chose très solennelle à cause de l'infidélité du peuple, qu'on voit dans Ézéchiel 9, 10 et 11. Mais personnellement, Ézéchiel avait ce contact avec Dieu comme Moïse l'avait, et Dieu a communiqué à lui ses pensées intimes. Il est dit aussi au verset 22 qu'ils seront sur l'arche du témoignage. Ça va ensemble avec la pensée que nous avons vue déjà, que l'arche est l'arche du témoignage aussi longtemps qu'il y a un peuple dans le désert, dans ce monde. L'arche du témoignage. Aujourd'hui, le témoignage est par rapport à l'assemblée, comme on voit dans 1 Corinthiens 1 et 2. Le témoignage de Dieu, le témoignage de Christ. Et dans Apocalypse 1, nous voyons que Jean, l'apôtre, a souffert à cause du témoignage. Il s'est identifié avec le témoignage de Dieu. Et Dieu veut nous communiquer aussi maintenant ses pensées. Nous avons le Nouveau Testament qui complète les pensées de Dieu. Donc nous ne sommes pas sous la loi de Moïse, mais nous avons ici quand même la même pensée que Dieu peut communiquer librement à nous ses pensées. On voit dans Moïse aussi une image du Seigneur Jésus comme le grand apôtre. Tantôt j'ai dit, Moïse représente les croyants qui ont maintenant ce libre accès, mais Moïse est aussi une image du Seigneur Jésus selon Hébreux 3. Et il est l'apôtre de tout ce système pour communiquer aux autres les pensées de Dieu. Et ainsi, Dieu a donné tout au Seigneur Jésus comme homme dans la gloire maintenant, pour qu'il puisse communiquer les pensées de Dieu par son esprit maintenant à nous. Nous avons donc aussi cette proximité. Nous sommes richement bénis. On lit dans Luc 2, verset 14, lorsque les anges ont vu Christ, le bébé, dans la crèche, ils ont loué Dieu. Ils ont dit dans Luc 2, verset 14, gloire à Dieu. C'est le premier élément. Paix sur la terre. Et le troisième élément, bon plaisir dans les hommes. Ces trois éléments vont toujours ensemble. Gloire à Dieu, c'est ça qu'on voit dans les chérubins. Ils cherchent d'abord la gloire de Dieu. Ils maintiennent la gloire de Dieu. Mais Dieu a établi la paix à cause de l'œuvre accomplie de Christ. Et la troisième pensée, bon plaisir dans les hommes. Dieu a trouvé son bon plaisir dans Christ, l'homme parfait. Et maintenant, il peut aussi avoir son bon plaisir en nous, nous qui sommes identifiés avec lui. La pensée d'Exode 25, verset 22, « Je me rencontrerai là avec toi et je parlerai avec toi. » J'aimerais lier, parce qu'on lit dans Nombre 7, verset 89, après l'inauguration du tabernacle, nous lisons quand Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec lui. Il entendait la voix qui lui parlait de dessus le propitiatoire qui était sur l'arche du témoignage, d'entre les deux chérubins, et il lui parlait. Là, nous voyons donc une communication de deux côtés. Dieu révèle ses pensées à Moïse. Il entendait la voix. Quel privilège de pouvoir entendre la voix de Dieu qui lui parlait de dessus le propitiatoire. Donc encore, sur la base de l'œuvre accomplie de Christ. Par rapport au témoignage de Dieu, en accord avec le témoignage de Dieu, soutenu par l'arche et sous le regard des deux chérubins. Mais là, le point que j'aimerais souligner à la fin du verset, il lui parlait. Moïse a eu le privilège d'avoir la communion avec Dieu. Il pouvait lui parler. C'est une pensée encourageante pour nous aussi, comme nous avons le privilège de pouvoir nous approcher de Dieu. Il communique nos pensées par son esprit, par sa parole, et nous pouvons donner une réponse dans l'adoration. Et c'est ce qu'on trouve dans Genèse 35 avec Jacob, lorsqu'il est revenu à la maison de Dieu, Bethel, lorsqu'il avait été discipliné et restauré. Nous lisons que Dieu lui apparut après son retour de Paddan Aram. Dieu l'a béni. Et dans Genèse 35, verset 13, après que Dieu avait parlé à Jacob, nous lisons, Dieu monta d'auprès de lui dans le lieu où il avait parlé avec lui. le tabernacle avec cette place que nous avons vue dans Exode 25, dans le temple de Salomon, ce lieu très saint appelé l'oracle. C'est la place où Dieu parle. Et la pensée est déjà ici dans Genèse 35, verset 13, dans le lieu où il avait parlé avec lui. Donc, par rapport à la maison de Dieu, où Dieu habite, et où nous pouvons avoir cet accès libre, nous avons ce privilège de la communion. Dieu nous parle. Verset 14, Jacob érigea une stèle au lieu où il avait parlé avec lui, une stèle de pierre. Il répandit dessus une libation et versa de l'huile. C'est la réponse du cœur de Jacob. Et au verset 15, Jacob appela le nom du lieu où Dieu avait parlé avec lui, Bethel. Bethel veut dire maison de Dieu. Dieu avait parlé avec Jacob. Dieu avait communiqué ses pensées à lui. Mais il est beau de voir au verset 14 où il avait parlé avec lui. Là, c'est Jacob qui avait parlé avec l'Éternel. Et nous avons donc ici déjà la pensée de la communion intime dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Et c'est notre privilège aussi. Et toutes ces pensées vont ensemble. Les chérubins qui maintiennent la gloire de Dieu sur la base du propitiatoire, l'œuvre de Christ, basée sur sa personne dans l'arche. Sans la personne du Seigneur Jésus, sans sa vie en perfection, il n'y aurait pas de propitiation. Et ainsi, la vie et la mort du Seigneur Jésus vont ensemble. Et ensemble, ils sont nécessaires pour notre salut. Et là, nous avons cet accès à la présence de Dieu pour jouir de cette communion avec lui, pouvoir entendre sa voix et aussi pour pouvoir donner une réponse. Que le Seigneur nous aide à lui donner cette réponse et que nous puissions entrer dans ses pensées comme il les a montrées dans ses illustrations du tabernacle et comme on verra aussi dans les autres ustensiles comme la table et le chandelier et les autres détails du tabernacle. J'ai fait cette cassette longtemps après que ça a été enregistré, parce que cette cassette a été perdue, mais c'était l'introduction pour quelques messages qui suivent maintenant sur les autres détails du tabernacle. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il bénisse tous les auditeurs.